إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، donc on commence aujourd'hui le cours numéro 8 dans l'explication du livre اقتضاء صراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، le تعليق de Cheikh Saleh Al-Fawzan de ce livre. Et on est arrivé donc à l'endroit où Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah, il explique l'état des gens avant l'islam. L'état des gens avant l'islam. Et donc on a parlé au dernier cours des catégories de gens qui existaient à cette époque. Les juifs, les chrétiens, les hunafa, et on a expliqué qu'il y avait aussi les mushrikines et les philosophes. Maintenant le cheikh il dit فَهَدَ اللَّهُ النَّاسِ بِبَرَكَةِ نُبُوَةِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وبما جاء به من البينات والهدى هداية جلت عن وصف الواصفين وفاقت معرفة العارفين. Donc dans le passage 21 dans l'explication, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a guidé les hommes par la bénédiction de la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il a ramené avec lui comme preuve claire et comme guidance, d'une guidance qui dépasse la description et qui dépasse l'entendement ou la compréhension ou la connaissance. Et Cheikh Al-Fawzan il explique ça. Il dit لما ذكر رحمه الله حالة العالم في الجاهلية وأقسامهم وتفرقهم وتشتتهم في الأفكار والعبادات والسلوك ذكر بعثة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان من شأنها أن تخرج الناس من الظلمات إلى النور ومن الضلالة إلى الهداية ومن العمى إلى البصيرة. فبعثة هذا النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي رحمة للناس جميعا، كما قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Donc le cheikh il dit, lorsque le cheikh il a mentionné rahimahullah l'état du monde dans la jahiliya et les différentes catégories qui existaient, du fait qu'ils étaient divisés, du fait qu'ils étaient divisés en groupes et en parties et en différentes sectes, différentes religions, différentes pensées, ils étaient divisés dans leurs adorations, divisés dans leur conduite et dans leur comportement. Après, le cheikh maintenant il mentionne la venue du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les caractéristiques de la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que par sa venue, il a fait sortir les hommes des ténèbres vers la lumière et de l'égarement vers la guidance et l'aveuglement vers la clairvoyance. Et donc la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était rien d'autre qu'une miséricorde pour tous les hommes, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 108 ou non, 107. Dans Surat Al-Anbiya, nous t'avons envoyé que comme une miséricorde pour les mondes. Wa rahmatul lil mu'minin khususan. قال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Donc le cheikh il explique ensuite, il dit que c'était une guidance et une miséricorde pour les mondes et une miséricorde pour les croyants en particulier, bien entendu. Parce que c'est une miséricorde pour toute l'humanité, mais encore plus grande pour les croyants, parce que les croyants, c'est eux qui profitent de cette guidance. Et c'est eux qui suivent le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la guidance. Donc, du moment qu'ils suivent, ils ont une plus grande part de guidance, et donc c'est une plus grande miséricorde pour eux en particulier. Et Allah subhanahu wa ta'ala mentionne ça dans le verset 164, dans Surat Al-Imran. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et certes Allah a fait une grande faveur aux croyants lorsqu'il a fait susciter lorsqu'il a fait susciter un messager parmi eux, yani de par eux-mêmes, c'est-à-dire c'est un messager qui est venu parmi eux et qui fait partie d'eux, c'est-à-dire il fait partie des Arabes, il est venu parmi les Arabes, il était yani un Arabe lui-même, et il leur récite les signes, les versets d'Allah, et il les purifie, et il leur enseigne le livre et la sagesse, alors qu'auparavant, hein, même si auparavant, ils étaient dans un égarement évident. Donc ça c'est pour dire que, comme si à la base il est venu chez les Arabes, et il faisait partie des Arabes, mais il n'était pas venu que pour les Arabes, il est venu pour toute l'humanité au complet. Hein. Et après il dit فبعث الله تعالى نبيه الى قوم لا يعلمون فعلمهم والى قوم لا آداب لهم فأدبهم من خلال تعليمه اياهم كتاب الله الذي انزل عليه وتبيين معانيه لهم والمراد بالحكمه هنا السنه ففيها غنيه عن حكمه الفلاسفه فأصبحوا بعد بعثته صلى الله عليه وسلم لما آمنوا به واتبعوه سادة العالم وعلما وعملا وحكما وصار العالم كله تحت سيطرتهم وتحت أيديهم بعد أن كانوا مستضعفين في الأرض. Donc le cheikh il dit que Allah a fait venir donc ce prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم. Il l'a envoyé à un peuple qui n'avait pas de science, qui ne savait rien, et il leur a enseigné. Il l'a envoyé à un peuple qui n'avait aucune manière, et il les a éduqués à travers son enseignement du livre d'Allah, hein, qu'il leur a enseigné, que Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé. C'est-à-dire à travers du livre qu'Allah lui avait révélé, il les a enseignés, hein, toutes ces choses-là. Et il leur a expliqué la signification de ce livre. Et dans le verset, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et il leur enseigne le livre, hein, Al-Kitab, ou Al-Hikma, et la sagesse, le cheikh, il dit que le mot Hikma, dans ce verset, ça signifie la Sunna. Il leur enseigne le livre et la sagesse, c'est-à-dire le Coran et la Sunna. Hein? Et la sagesse, Al-Hikma, c'est la sunna. Et donc, le cheikh, il dit, il y a donc dans la sunna une sagesse qui fait en sorte qu'on n'a pas besoin de la philosophie. Il y a dans la sunna une sagesse qui fait en sorte qu'on peut se passer complètement de toutes sortes de philosophies. Donc, ils sont devenus, après la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'ils ont cru en lui et qu'ils ont suivi son message, ils sont devenus les maîtres du monde dans la science, dans la pratique, dans la sagesse, dans leur façon de gouverner et de gérer. Et le monde tout entier est comme si, c'est comme s'ils ont mis le monde tout entier sous leur tutelle et sous leur pouvoir, hein, sous leurs mains. Alors qu'auparavant, ils étaient complètement faibles et affaiblis sur la terre. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, à cause du fait qu'ils ont mis en application les enseignements d'Allah et du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Allah a fait d'eux les maîtres du monde et les a mis au-dessus de tous les autres. Donc le cheikh il dit, qala subhanahu wa ta'ala, واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون حيث كانوا قليلين فكثرهم مستضعفين خائفين فقواهم ونصرهم وفقراء عالة فرزقهم من الطيبات والله منعم يحب الشكر وأهل الشكر في مزيد من الله تعالى ولهذا قال الشيخ رحمه الله في وصف كل ذلك هداية جلت عن وصف الواصفين وفاقت معرفة العارفين. Donc le cheikh il dit, Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné cet exemple dans le Coran par rapport à l'état dans lequel les croyants étaient auparavant, puis comment ils sont devenus par la suite, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala leur a envoyé ce messager et qu'ils l'ont suivi. Qu'est-ce qui est arrivé par la suite, hein? C'est décrit dans Surat al-Anfal, le verset 26. Et c'est un verset vraiment fort, hein, dans sa signification. Allah subhanahu wa ta'ala dit aux croyants, et rappelez-vous, quand vous étiez un petit nombre, hein, إذ كنتم قليلون, قليل, ça veut dire un peu, hein, souvenez-vous lorsque vous étiez peu nombreux, opprimés sur la terre, مستضعفين في الأرض, écrasés, opprimés, faibles sur la terre, hein, تخافون أن يتخطفكم الناس. Regarde les termes que Allah subhanahu wa ta'ala utilise. Ça veut dire, c'est comme, vous craignez de vous faire enlever par les gens. Hein? Vous craignez de vous faire kidnapper. Hein? Vous faire prendre par les gens. Vous faire enlever. Et il vous donne un asile. Hein? Fa'awakum. Il vous a donné asile. Il vous a réfugié. Hein? Il a accepté, il vous a donné un refuge. Et vous renforça de son secours et vous attribua des bonnes choses afin que vous soyez reconnaissants. Donc ça c'est pour dire, yani, comment ils étaient avant. Puis le cheikh il dit, ils étaient peu, Allah les a fait devenir nombreux. Ils étaient faibles et ils avaient peur, Allah subhanahu wa ta'ala les a renforcés et leur a donné sa victoire. Ils étaient pauvres, indigents sur la terre, Allah leur a donné la subsistance, il lui a donné de tous ses biens. Donc il dit, Allah c'est celui qui donne de sa grâce et il aime la reconnaissance, il aime la reconnaissance, qu'on le remercie. Et les gens qui remercient Allah, ils sont constamment en train d'augmenter dans les grâces d'Allah. Ceux qui reconnaissent les grâces d'Allah, qui remercient Allah quand ils ont une grâce, Allah continue tout le temps de leur donner plus de ce qu'il leur donne et de grâce. Le cheikh il dit, وَلِهَذَا, donc, et en passant, juste pour une petite note ici, pour qu'on ne se trompe pas dans la compréhension de remercier Allah. Remercier Allah, ça ne veut pas seulement dire que tu dis avec ta bouche Alhamdulillah, ou bien que tu dis avec ta bouche merci Allah, non. Remercier Allah, ça implique que tu le remercies par ton obéissance, c'est-à-dire en faisant ce qu'il t'ordonne et en t'écartant de ce qu'il t'interdit. Ça, c'est le vrai remerciement d'Allah. En plus de dire Alhamdulillah, en plus de le remercier avec la bouche, tu le remercies par le fait que tu mets en application ses ordres et que tu t'abstiens de ce qu'il t'a interdit, hein, et que tu l'adores. Donc ça, c'est juste un point que je voulais noter pour clarifier ça. Après, le cheikh il dit, وَلِهَذَا قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ. Donc le cheikh il dit, justement pour décrire tout ce qu'on a dit maintenant, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu avec une guidance qui dépasse toutes nos descriptions et qui dépasse toute notre connaissance et notre compréhension. Après, il dit فَلَقَدْ كَانَ لِبِعْثَتِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَنْفَعَةً عَظِيمَةً عَلَى الْجَمِيعِ أَمَّا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فَقَدْ حَصَّلُوا السَّعَادَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَمَّا الْكَافِرُونَ فَلَقَدْ حَصَلَ لَهُمْ بِبِعْثَةِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَائِدَةً فِي الدُّنْيَا وَذَلِكَ بِتَرَاجُعِهِمْ عَنْ كَثِيرٍ مِنْ غَيِّهِمْ وَبَاطِلِهِمْ بما أصابهم من عدله صلى الله عليه وسلم وهذا في الدنيا أما في الآخرة فلقد غلبت عليهم شقوتهم فلم يؤمنوا فخسروا في الآخرة خسرانا مبينا. الشيخ il dit que à un tel point que la guidance du prophète صلى الله عليه وسلم a été grande, c'est que yani, lorsqu'il est venu, ça a été un grand bienfait pour tout le monde. Pour les croyants et pour les mécréants. Même pour les mécréants. Pour les croyants, ça a été un bienfait pour eux du fait qu'ils ont suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et à cause de ça, ils ont reçu le bonheur. Dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Tandis que pour les mécréants, les koufars, eh bien eux, avec la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont profité dans leur dunya. Et ça, c'est dans le fait qu'ils ont quitté beaucoup de leur déviation et de leur fausseté avec sa venue. Hein? À cause de la justice que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ramenée. Ça, c'est dans les affaires de la dunya. Par contre, en ce qui concerne les affaires de l'au-delà par rapport au kuffar, eh bien, le malheur a eu le dessus sur eux et ils n'ont pas cru. C'est-à-dire que oui, s'ils voyaient qu'il y avait quelque chose qui était bon et qui était juste, bénéfique dans l'islam pour eux, ils le prenaient. Hein? Parfois, ils en profitaient eux autres aussi. Hein? Mais par contre, dans l'au-delà, ils ont perdu. Ils ont été malheureux et ils ont perdu d'une perdition évidente. Le cheikh, il dit ensuite, cheikh Ibn Taymiyyah, il dit « حَتَّى حَصَلَ لِأُمَّتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ » لأمته المؤمنين به عموما ولأولي العلم منهم خصوصا من العلم النافع والعمل الصالح والأخلاق العظيمة والسنن المستقيمة ما لو جمعت حكمة سائر الأمم علما وعملا الخالصة من كل شوب إلى الحكمة التي بعث بها لتفاوتا يمنع معرفة قدر النسبة بينهما فلله الحمد كما يحب ربنا ويرضى ودلائل هذا وشواهده ليس هذا موضعها. Donc le cheikh il dit, jusqu'à ce que, à un tel point que la guidance du prophète sallallahu alayhi wa sallam a été grande, c'est qu'elle est arrivée à sa umma, donc ils ont tous reçu de cette guidance et de ce bien et de cette grâce de façon générale, c'est-à-dire tous les croyants dans la umma, mais en particulier, bien entendu, les hommes de science parmi les musulmans, puisque eux, ils ont obtenu encore plus de ce bien-là. C'est pour dire que parmi la umma du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui ont le plus profité du bien et de la grâce d'Allah par la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et par sa guidance, ce sont les hommes de science. Ce sont toujours les hommes de science. Et même Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran qu'il a élevé les hommes de science en degré. Après, il dit donc qu'eux, ils ont reçu encore plus de ce bien dans la science bénéfique et dans les bonnes œuvres. Et dans le comportement élevé les grands aspects du comportement islamique, des bonnes manières islamiques et des pratiques islamiques qui sont droites. Et il dit que si on réunissait toutes les sagesses qui existent dans toutes les autres nations, dans la pratique et dans la science et dans l'application, qui a été purifiée de toute... De tout mal et de toute chose négative ou mauvaise, et qu'on la met à côté de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ramené comme guidance, eh bien, tellement que le bien qui a été ramené par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'islam est grand, qu'on n'aurait même pas considérer ou pris en considération qu'est-ce que le reste des autres nations ont ramené comme bien, puisque c'est quelque chose d'insignifiant par rapport à ce que yani, l'islam a ramené. Donc le cheikh il dit, la gloire et la louange dans ça revient à Allah, et on lui fait la louange comme il l'aime et comme il est satisfait de nous en le faisant. Et les preuves de ça et les témoignages de ça sont très nombreux, mais il dit, mais c'est pas l'endroit maintenant d'en parler en détail. Comme si en voulant dire, on mentionne ça ici maintenant comme ça, mais pour mentionner les preuves et les détails de ça et les témoignages à ce sujet-là, c'est pas l'endroit maintenant. C'est-à-dire, souvent Ibn Taymiyyah, il fait ça. Il parle d'un sujet, puis quand il commence à mentionner un autre sujet, il dit, je pourrais en parler plus, mais c'est pas le moment maintenant. Soit qu'il dit, j'en ai parlé dans un autre livre, il a déjà écrit un livre sur ça ailleurs, ou bien soit qu'il en parle, ou bien il va en parler plus tard. Hein? Donc ça, c'est des choses. Donc ça, c'était le passage numéro 22 qu'on est en train de lire. Maintenant, le cheikh Al-Fawzan, il l'explique. Donc il dit, « قَوْلُهُ حَتَّى حَصَلَ لِأُمَّتِهِ » لأمته المؤمنين به عموما يعني أن منة الله تعالى في بعثة هذا النبي صلى الله عليه وسلم على المؤمنين خاصة إنما هي منة عظيمة لا تقاس بثمن ولا تعدل بالدنيا وما فيها وفي ذلك عموم وخصوص أما العموم فمنة الله تعالى على أمته بعامة منة عظيمة والله جل وعلا أخرجهم من الظلمات إلى النور ومن الشرك إلى التوحيد فتركوا عبادة الأصنام والأوثان وتركوا أفعال الجاهلية من أكل الميتة وشرب الخمر ووأد البنات وأما الخصوص فإنما هو لأهل العلم من هذه الأمة حيث أعطاهم الله حظا وافرا من العلم والعمل والإيمان واليقين أكثر من غيرهم فالله جل وعلا يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء. Donc le cheikh il dit que quand le cheikh Ibn Taymiyyah a dit que sa umma a obtenu yani un grand bien, une grande grâce par la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Cheikh Al-Fawzan il explique que la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et la faveur d'Allah pour la Ummah en ayant suscité parmi eux le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est une grâce qui est grande de façon, yani pour tous les croyants, c'est une grande grâce. Hein? Et ça, c'est une grâce pour les croyants en particulier. Comme on a dit dans le passage précédent, que c'est un bien pour les croyants et pour les mécréants, mais pour les croyants en particulier. Puis, par la suite, pour la Ummah, c'est une grande grâce que tu peux même pas comparer ou donner un prix ou une valeur, tellement c'est une grâce qui est grande. Et que tu peux, même si tu donnais toute la dunya au complet, qu'est-ce qu'il y a dedans, ça n'aurait même pas la valeur, ça ne serait même pas assez pour comparer à quel point cette grâce et cette valeur-là est grande. C'est-à-dire qu'elle elle a tellement de valeur qu'elle ne peut pas être payée ou achetée avec un prix ou avec quoi que ce soit dans cette dunya. Même si tu donnais le monde entier pour comparer par rapport à qu'est-ce que cette grâce-là a comme valeur, ce ne serait pas assez. Donc il dit, et ça c'est de façon générale et de façon particulière pour les croyants. C'est-à-dire que, de façon générale, c'est une grâce de la part d'Allah pour sa umma en entier. Et c'est une grande grâce de sa part. Parce que Allah les a fait sortir des ténèbres vers la lumière, et du shirk vers le tawhid. Donc ils ont abandonné l'adoration des idoles et des choses qu'ils adoraient en dehors d'Allah. Et ils ont abandonné les actes de la jahiliya, comme par exemple le fait de manger des bêtes mortes ou de boire de l'alcool ou d'enterrer vivante leur fille à la naissance. Hein? Donc ça, c'est des exemples de choses qu'ils ont quittées avec la venue de l'islam. En ce qui concerne de façon particulière, eh bien, c'est une grâce particulière pour les hommes de science parmi les gens de cette umma, puisque Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné la plus grande part de la science et de l'action et de la pratique. Et la foi et de la foi et de la conviction, puisque eux, les savants parmi les croyants, ont plus de foi et plus de conviction que les autres parmi les croyants. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit à leur sujet que c'est seulement les savants d'entre les serviteurs qui ont réellement la crainte d'Allah. Ce sont uniquement les savants parmi les serviteurs d'Allah qui ont la crainte d'Allah. Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Après, le cheikh il dit wa qawluhu ma law jumi'at hikmatu sa'ir al-umam, ay law jumi'at al-hikma allati hasala 'alayha atba'u hadha ar-rasul صلى الله عليه وسلم مع حكمة الأولين والآخرين لما وازنتها الحكمة التي عند الأمم الأخرى فهي أقل من الحكمة التي حصل عليها أتباع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ودليل ذلك أن هؤلاء سادوا على العالم على العالم بحكمتهم وعلمهم فأصبحوا قادة الدنيا أما أولئك إن كان الله أعطاهم شيئا من الحكمة والإيمان لكن لم نجد أحدا منهم ساد العالم كله كسيادة هذه الأمة لم نقرأ ولم نعرف أن من تلك الأمم السابقة أمة انبسطت على الوجه الأرض وأطاعت لها البشرية كما حصل لهذه الأمة المحمدية مما يدل على تميز هذه الأمة على غيرها من الأمم. Le cheikh il dit que Ibn Taymiyyah par la suite il dit: si tu réunis la sagesse de toutes les autres nations, c'est-à-dire si on réunit la sagesse que les gens ont obtenu en suivant le messager, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qu'on la met à côté de la sagesse des premiers et des derniers, parmi les autres nations, eh bien, elle n'aurait pas pu, c'est-à-dire que la umma du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aurait pesé plus lourd et aurait été plus grande que tout ce que les autres nations ont obtenu comme sagesse. Donc, leur sagesse, elle est moins grande que la sagesse qui a été obtenue par ceux qui ont suivi le messager sallallahu alayhi wa sallam. Et le cheikh il dit que la preuve de ça, la sagesse de la umma, c'est-à-dire elle est plus lourde que la sagesse de toutes les autres nations qui sont venues auparavant. Et le cheikh il explique lui la preuve de ça. C'est que, il dit, cette umma, les gens de cette umma ont eu le dessus, c'est eux qui ont dirigé le monde par leur sagesse et par leur science, et ils sont devenus les maîtres du monde parce qu'ils ont eu de sagesse de la part de leur messager sallallahu alayhi wa sallam. Tandis que les autres nations, c'est vrai que même si Allah leur a donné quelque chose de la sagesse et de la foi, mais on n'a pas trouvé aucune de ces nations-là qui a dirigé le monde entier comme la umma du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Et on n'a jamais lu ni su de la part de ces nations précédentes qu'ils ont eu un pouvoir qui s'est propagé sur la terre entière et que l'humanité tout entière lui a obéi, comme c'est arrivé à cette umma, la umma du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc le cheikh il dit que ça c'est la preuve que cette umma, elle se distingue, cette nation, elle se distingue des autres nations précédentes. Ok, donc maintenant le passage numéro 23, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah il dit ثم إنه سبحانه بعثه بدين الإسلام الذي هو الصراط المستقيم وفرض على الخلق أن يسألوه هدايته كل يوم في صلاتهم ويعني وصفه بأنه صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وغير المغضوب عليهم ولا الضالين. Donc le cheikh il dit, cheikh Ibn Taymiyyah, il dit, puis ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé son prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avec la religion de l'islam, qui est le droit chemin. Et il a ordonné à toute la création de demander yani, la guidance, hein, de demander sa guidance à chaque jour dans sa salat. Et il l'a décrit comme étant le chemin de ceux sur qui il a placé sa grâce, parmi les prophètes, les véridiques, les martyrs et les pieux. Et que ce n'est pas le chemin de ceux qui ont encouru la colère d'Allah sur eux, ou bien le chemin des égarés. Hein? Donc, Cheikh Al-Fawzan, il explique maintenant ce passage numéro 23. Il dit, « Inna Allah subhanahu wa ta'ala » بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بدين الإسلام والإسلام هو دين جميع الرسل فرسالة جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إنما هي رسالة التوحيد وتختلف شرائعهم في الأحكام والنظم ولكن عقيدتهم جميعا هي التوحيد قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام وقال سبحانه وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Donc le cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala il a envoyé son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avec la religion de l'islam, et l'islam c'est la religion de tous les messagers. Donc le message de tous les messagers qui ont été envoyés à l'humanité par Allah, c'était le message du tawhid. Donc quand on dit que le message de l'islam c'est le message de tous les messagers, on parle du tawhid en fait, hein, parce que c'est la base du message de tous les messagers. Tandis que leurs règles et leur législation ou les livres qu'ils reçoivent, qu'ils ont reçus les messagers précédents, parfois ils avaient des règles différentes que yani, ils avaient des règles différentes par rapport au messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc la charia que Moussa avait par exemple, c'était pas nécessairement la même charia qu'un autre prophète ou que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais la base du message, c'était toujours le tawhid, l'unicité d'Allah. Et la ilaha illallah, que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah le Créateur. Donc les règles et les principes, hein, c'est-à-dire les règles et les pratiques, parfois les législations peuvent être différentes, mais la croyance et les principes de base et les fondements dans la croyance sont toujours les mêmes, c'est-à-dire c'est toujours le tawhid et l'unicité d'Allah. Et le cheikh il mentionne ça en expliquant le verset 19 dans sourate Al-Imran, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit que la religion d'Allah c'est l'islam. La religion d'Allah c'est l'islam. Il n'y a pas d'autre religion pour Allah. Donc c'est important de l'expliquer, surtout pour ceux qui ne sont pas musulmans par exemple, parce qu'ils disent l'islam c'est la religion qui est venue avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et avec le Coran. Et ils s'imaginent que les autres prophètes qui sont venus auparavant, comme Jésus, fils de Marie, ou bien Moïse, ou Abraham, ou Jacob, ou Isaac, ou bien Noé, ou les autres prophètes, que eux, non, c'était pas l'islam leur religion. Donc tu leur dis, dans ce cas-là-ci, c'était pas l'islam leur religion, c'était quoi? Hein? Parce que eux, ils comprennent pas des fois, ils s'imaginent que, quand tu dis islam, tu dis, mais comment ils auraient pu être musulmans, puisque eux, ils étaient avant la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais tu leur dis, oui, ils sont venus avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sauf que leur message de base, c'est le même message. C'est le tawhid, c'est toujours l'unicité d'Allah. Et si tu remarques que le mot islam lui-même, qu'est-ce qu'il signifie? Il signifie de se soumettre à l'obéissance d'Allah et aux ordres d'Allah. et d'adorer Allah seul seulement, et de ne rien adorer autre que lui, et de combattre tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Donc ce message-là, est-ce qu'il n'existait pas chez les messagers avant? Bien sûr. Hein, c'est la base du message de tous les prophètes. Donc, les messagers d'Allah n'ont jamais eu une autre religion que la religion de l'islam. Hein? Et si quelqu'un, peu importe qui il est, prétend qu'il y avait une autre religion que l'islam avant, par les messagers qu'Allah a envoyés, depuis Adam jusqu'à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en passant par Abraham, et Moïse, Jacob, Isaac et tous les autres prophètes qui sont venus à l'humanité, ceux qu'on connaît, parce que ceux-là, c'est ceux que Allah a mentionnés dans la révélation, mais il y a d'autres messagers également qui sont venus dont Allah n'a pas parlé dans les révélations. Eux aussi, leur message, c'était le tawhid tout le temps. Tandis que les règles qu'ils avaient, c'était pour un peuple particulier, pour une époque spécifique, hein, et yani, c'était pas pour toujours, et c'était pas pour tous les peuples, comme le christianisme. Qu'est-ce que les gens appellent christianisme aujourd'hui? Eh bien, c'est pas Isa alayhi salam, c'est pas Jésus qui a appelé cette religion-là le christianisme. C'est-à-dire, tu trouves pas, même dans la Bible actuellement, tu trouves pas un endroit dans la Bible où Jésus dit, bon, ma religion c'est le christianisme et je demande à tout le monde maintenant d'accepter cette religion-là, c'est le christianisme. Non. Il a pas dit, la religion de l'humanité, ça doit être le christianisme. En fait, le mot christianisme, c'est venu bien longtemps après Jésus. Hein? Et le premier empereur qui a accepté, parmi les Romains, qui a accepté le christianisme, c'était Constantin. Et Constantin était un adorateur d'idoles pendant des siècles. Et ça, c'était... Constantin, il a accepté la religion qu'il a appelée le christianisme 325 ans après Jésus. 325 ans, ça c'est beaucoup. Ça veut dire qu'il a accepté la religion qu'il a appelée le christianisme. C'est-à-dire que c'était déjà commencé à s'appeler christianisme, mais le mot christianisme, ça vient du grec. Et ça vient du terme en hébreu, du terme messie. Ça vient du terme messie. Et quand on dit le christianisme, c'est ça. Ça veut dire ceux qui croyaient au messie. Donc les Grecs appelaient les Juifs qui avaient cru en Isa, alayhi salam, ils les appelaient des chrétiens. OK? Le Constantin, quand il a déclaré l'Empire romain comme étant la religion de l'État, c'était en 325. Et c'était à cette époque-là qu'il a fait le premier concile chrétien. Il a réuni tous les évêques, chrétiens, pour décider entre eux de qu'est-ce qu'allait être la religion chrétienne officielle. Parce que avant Constantin, il y avait plusieurs communautés chrétiennes dans différentes villes, dans différentes parties du monde. Sauf que toutes ces communautés chrétiennes, ils n'étaient pas sur les mêmes croyances. Il y en a des communautés chrétiennes, ils croyaient que Jésus c'est un prophète seulement. Ils ne croyaient pas que c'est Dieu. Comme nous les musulmans, on dit que Jésus c'est un prophète, on ne dit pas que c'est Dieu. Et on ne l'adore pas. Eux, ils avaient la même aqida que qu'est-ce que Jésus a enseigné. Ils les appelaient les unitariens, les chrétiens unitariens. Puis il y avait d'autres communautés chrétiennes qui, eux, croyaient par exemple en la Trinité. Hein? Puis, ça c'est ce qu'on appelait les trinitariens, ceux qui croient à la Trinité. Puis il y avait d'autres communautés, chacun ils avaient des différences entre eux. Donc tous ces évêques, tous ces prêtres, tous ces pères de l'Église à l'époque, ils étaient tous divisés. Constantin c'était l'empereur romain. Les Romains croyaient en des différents dieux, tu vois. Puis quand ils partaient à la guerre, quand ils voulaient avoir une victoire, ils appelaient leurs différents dieux pour demander à leur dieu de leur donner la victoire. Si un dieu leur donnait la victoire, ils allaient l'adorer plus que les autres. Donc lui, qu'est-ce qui est arrivé avec Constantin? C'est qu'il a trouvé que dans le christianisme, étant donné qu'il y avait des problèmes dans son empire à ce moment-là, il a trouvé que dans le christianisme, il aurait pu utiliser le christianisme pour unir son empire, puis, raffermir son pouvoir politique. Hein? Fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, je vais prendre la religion chrétienne, puis je vais en faire la religion de l'État. Mais en même temps, il a laissé les idolâtres adorer leurs idoles, puis les temples d'idolâtrie, il les a laissés à égalité. Mais qu'est-ce qui est arrivé après? C'est qu'il a constaté que les chrétiens n'étaient pas unis. Que chaque chrétien, chaque communauté chrétienne avait sa propre croyance. Donc il a dit, comment moi je vais appeler les idolâtres, les païens, pour de devenir chrétiens, alors que les chrétiens eux-mêmes sont différents, en différentes croyances. Comment ils vont accepter qu'est-ce que je leur dis ou des choses comme ça? Alors il a réuni tous les évêques et il leur a dit, maintenant là vous allez choisir c'est quoi la croyance officielle des chrétiens. Puis qu'est-ce que vous allez voter comme officiel, ça va devenir ça. Puis vous allez choisir les livres officiels du christianisme, c'est quoi les références, puis ça va être ça qui va être la religion chrétienne à partir d'aujourd'hui. Et puis il leur a imposé, il leur a forcé d'accepter ça. Et s'il y en avait un qui n'était pas d'accord avec les autres, hein, il mettait de la pression pour qu'il accepte qu'est-ce que les autres ont dit. Donc, à la fin, le christianisme est devenu ça. Qu'est-ce que Constantin a décidé alors qu'il n'était pas encore devenu chrétien? Hein? Constantin, c'est un homme très égaré, c'est un mouchrik, idolâtre, toute sa vie. Hein? Et même qu'on dit qu'il a fait même cuire sa femme dans de l'eau bouillante. Et il a tué son fils, même aussi. Des histoires terribles qu'on a lues à son sujet. Il paraît qu'il a seulement accepté de se convertir à la religion chrétienne à la fin de sa vie sur son lit de mort. C'est à la fin de sa vie sur son lit de mort. Donc, au moment où il réunissait les évêques pour faire le concile de Nicée et tout ça, il était encore païen, idolâtre. Mais même les chrétiens sont des idolâtres. Mais c'est-à-dire, ils ont changé une forme d'idolâtrie pour une autre. Hein? En fait, c'est ça le christianisme. Et ceux qui sont devenus chrétiens en Europe, à l'époque, c'était juste changer une forme d'idolâtrie pour une autre. Ça représente pas un grand... Ça représente un grand changement, mais ce n'est pas un grand changement par rapport à l'islam. Du fait que le shirk, c'est le shirk. Et du moment que tu fais le shirk, peu importe que ce soit le shirk avec des idoles, ou le shirk avec un prophète, ou le shirk avec un ange, yani tu associes ces créatures-là avec Allah, puis tu les adores en dehors d'Allah, tout ça c'est considéré comme de l'idolâtrie, peu importe. Hein? C'est comme par exemple, comme ma grand-mère, je mentionne souvent cet exemple-là, ma grand-mère, elle, était une chrétienne catholique et elle était une chrétienne dévouée là, au christianisme. Elle avait des statues de Marie dans sa maison, puis elle priait Marie, puis elle priait Jésus, puis tout ça. Et elle a dit que une fois elle a eu une vision, elle a vu Marie qui lui est apparue au pied de son lit. Hein? Moi je lui ai dit, ça c'est le diable que tu as vu qui t'est apparu. Elle m'a dit, non, ça peut pas être le diable, parce qu'elle était toute belle, avec un voile et avec de la lumière. J'ai dit, tu penses que le diable peut pas se mettre en l'image d'une belle femme avec une lumière? Subhanallah. Donc, les gens, ils s'imaginent que, qu'est-ce qui est beau, ça veut dire que ça peut pas être le diable. Au contraire, le diable, il peut être beau pour plaire aux gens, pour attirer les gens à l'égarement. Exactement. Mais les gens se laissent tromper parce qu'ils regardent l'image apparente. Et donc, ils s'imaginent que si c'est le diable, il faut que ce soit une créature hideuse, laide, épeurante, qui est mauvaise, qui quand tu la vois, ça va te faire fuir. Ce serait trop facile. Hein? Non, le shaitan, il peut venir et il a la plus belle apparence. Et le plus beau et la plus belle odeur, la plus belle apparence. Et toi, tu le vois, tu dis, ah, ça c'est quelque chose de bien. Donc toi, tu adores cette image-là, au lieu d'adorer Allah, tu tombes dans le shirk. Donc c'est juste une note en passant, pour faire comprendre que le shirk, c'est du shirk. Peu importe que quelqu'un vienne avec l'image d'un prophète, ou de Marie, ou de quelqu'un de pieux, pour se faire passer pour lui, puis après... tu tombes dans son adoration, que celui qui est un sataniste, qui adore l'image du diable, puis qui prie directement au Satan. Hein? Les deux, c'est la même chose. Sauf qu'il y en a un qui adore le shaitan direct, puis l'autre qui adore le shaitan, mais par un intermédiaire ou par indirect. Mais à la fin, c'est la même chose. Donc, qu'est-ce qu'il dit ensuite? Le cheikh, il dit, et dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 85, dans surat Al-Imran, Allah dit, et quiconque cherche une religion autre que l'islam, elle ne sera pas acceptée de lui. C'est-à-dire que la seule religion que Allah va accepter de l'humanité, c'est l'islam, pas d'autre. Ni le christianisme, ni le judaïsme, ni le bouddhisme, ni l'hindouisme, ni n'importe quel autre. Seulement l'islam. Le cheikh dit ensuite, وَالْإِسْلَامُ هُوَ عِبَادَةُ اللَّهِ بِمَا شَرَعَ فِي كُلِّ وَقْتٍ بِحَسَبِهِ فَمَنِ اتَّبَعَ رَسُولًا مِنَ الرَّسُولِ وتمسك بشريعته في وقته فهو مسلم حتى بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فكان الإسلام بعد بعثته هو ما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh il dit, qu'est-ce que c'est l'islam? Il dit l'islam, c'est l'adoration d'Allah par ce qu'il a révélé, chacun selon son époque. Chacun selon son époque. Donc, il dit, celui qui a suivi un messager parmi les messagers et qui s'est accroché à sa législation et à sa révélation à son époque, alors c'est un musulman, c'est un musulman celui-là. Jusqu'à la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, l'islam, après la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est quoi? C'est qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ramené. C'est ça l'islam à partir de ce moment-là. C'est-à-dire qu'à l'époque de Moïse, l'islam, c'est de suivre l'exemple de Moussa et qu'est-ce qui a été révélé à Moussa. À l'époque de Isa, l'islam, c'est de suivre ce qui a été révélé à Moussa, à Isa, à Jésus. À l'époque, après la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à la fin des temps, puisque c'est le dernier des messagers, l'islam c'est de suivre ce qui a été révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à la fin des temps. Hein? C'est ça l'islam maintenant. Quelqu'un ne peut pas ramener suivre un autre prophète précédent, puis dire qu'il est musulman ou qu'il suit la religion d'Allah, puisque tout ce qui était auparavant a été abrogé maintenant par ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a ramené. الشيخ يقول وأما قوله بدين الإسلام والإسلام معناه الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله فمن لم يستسلم لله عز وجل فهو مستكبر ومن استسلم له ولغيره فهو مشرك والمستكبر والمشرك كلاهما في النار وأما المستسلم أما من استسلم وانقاد لله عز وجل وتبرأ من الشرك وأهله فإنه هو المسلم الحقيقي. Donc le cheikh il dit, celui qui ne s'est pas soumis à, il dit premièrement que en ce qui concerne, lorsque le cheikh dit la religion de l'islam, il dit l'islam, ça signifie la soumission à Allah par son unicité. C'est-à-dire que tu te soumets à Allah subhanahu wa ta'ala en l'unifiant. Et que tu obéis à ses ordres. Et que tu te soumets à son obéissance. Et que tu te désavoues du shirk et de ceux qui le commettent ou de ceux qui pratiquent le shirk. Donc tu te désavoues de tous ceux qui adorent d'autres choses avec Allah ou d'autres que Allah. Et tu te désavoues du fait d'adorer d'autres que Allah. Donc ça c'est yani quelque chose de très 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 important. Le cheikh il dit ensuite, فَمَنْ لَمْ يَسْتَسْلِمْ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلْ فَهُوَ مُسْتَكْبِرْ. Celui qui ne s'est pas soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, alors c'est celui qui est yani il est arrogant, il est fier. Donc celui qui ne s'est pas soumis à Allah, c'est comme s'il est kafir parce que il est trop fier pour l'adorer et pour se soumettre à lui. Ensuite, celui qui s'est soumis à Allah, mais qui a commis le shirk, hein? Parce qu'il y a ceux qui disent, moi j'adore pas, j'adore rien, j'adore pas Dieu, je prie pas, je jeûne pas, je me soumets pas à Dieu. Ils reconnaissent, comme les athées, ou bien comme les gens qui refusent d'accepter l'existence de Dieu ou de l'adorer carrément. Donc ceux-là, c'est ceux qui sont arrogants et qui sont fiers. Donc ceux-là, hein, c'est des koufars. Et il y en a qui disent, oui, je crois que Dieu existe, j'accepte de croire en son existence, mais ils commettent le shirk. C'est-à-dire qu'ils adorent d'autres choses que Allah en même temps. Ou bien ils prient à des saints, ou à des images, ou à des croix, ou à des objets, ou à des anges, ou à des djinns, ou à des créatures, ils prennent des intermédiaires entre eux et Allah. Ceux-là sont des associateurs, c'est-à-dire sont des idolâtres, des mushrikin. Donc ça c'est la deuxième catégorie. Et le cheikh dit que ce soit l'orgueilleux ou l'arrogant qui refuse de se soumettre, ou le mushrik qui accepte de se soumettre mais qui adore d'autres que Allah, il dit tous les deux sont en enfer. Tandis que celui qui accepte de se soumettre à Allah et qui obéit à Allah et qui se désavoue du shirk et des gens qui pratiquent le shirk, alors celui-là est le vrai musulman. C'est lui qui est le vrai musulman. Le cheikh il dit wa qawluhu allazi huwa as-sirat al-mustaqim ay anna al-islam huwa as-sirat allazi la wijaja fihi fa huwa at-tariq al-wadih allazi man wuffiqa al-khayr aw wuffiqa الذي من وفق لخيري الدنيا والآخرة وفق لتصديق الرسل جميعا والتمسك بالكتاب والعمل بما أمر الله والانتهاء عما نهى عنه هو الصراط أي دين الله الذي لا يقبل من العباد لا يقبل من العباد غيره لا يقبل من العباد غيره نسأل الله أن يدلنا عليه ويثبتنا عليه ولهذا شرع لنا في كل ركعة من صلاتنا أن نقول اهدنا الصراط المستقيم. Donc le cheikh il dit que sa parole, lorsqu'il dit, le cheikh Ibn Taymiyyah, lorsqu'il dit que la religion de l'islam c'est le droit chemin, il dit c'est-à-dire que c'est le droit chemin dans lequel il n'y a pas de tournant ou de rien qui est difficile, de tortueux. Il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas de choses croches dans ce chemin-là. Il est droit. C'est-à-dire, il peut y avoir des obstacles dans le sens qu'il y a des épreuves. Hein. Il peut y avoir des difficultés, comme des épreuves, des tests, hein, des choses qui nous tentent, qui peuvent nous faire sortir de la droiture, parce que le shaitan essaie toujours de nous faire dévier. Mais sinon, le chemin lui-même, il est droit, hein, et il y a rien de croche sur ce chemin. C'est un chemin qui est droit et qui est clair. Et celui qui a eu le succès, d'obtenir le bien des deux mondes, c'est-à-dire le bien de ce monde d'ici-bas et de l'au-delà, et qui a reçu le succès de croire en tous les messagers et de s'accrocher aux livres et d'agir selon ce que Allah a ordonné et de s'abstenir de ce que Allah a interdit, alors dans ce cas-là il est sur le droit chemin, il est sur le chemin, c'est-à-dire sur la religion que laquelle Allah, c'est-à-dire, il est sur la religion d'Allah, la religion que Allah n'acceptera du serviteur aucune autre que elle. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous indiquer, hein, de nous guider ou de nous montrer cette religion-là et de nous raffermir dessus. Et c'est pour ça que il nous a légiféré, il nous a ordonné de dire dans notre salat, dans notre prière, guide-nous sur le droit chemin. Donc, on voit ici un point important que le cheikh dit, il mentionne juste mettre un petit point par rapport à ça, c'est très, très important. C'est que des fois on dit Alhamdulillah, on est musulman, hein? Allah nous a guidés à l'islam. Et surtout ça c'est quand on vient de se convertir à l'islam, on dit Alhamdulillah, Allah il nous a guidés à l'islam, maintenant on est sur le droit chemin. Mais le cheikh il a rajouté un point important, c'est-à-dire et qu'il nous raffermisse dessus. C'est-à-dire que ce n'est pas suffisant juste d'avoir accepté l'islam au moment où tu l'as accepté, mais que tu dois rester ferme dessus et continuer à rester dessus. Donc c'est bien si tu as réussi à te convertir, Allah t'a guidé à l'islam. Ça c'est une grande faveur qu'il t'a fait, un grand bien. Mais il y en a beaucoup, ils acceptent la vérité, puis après un certain temps ils l'abandonnent, ou bien ils cessent. Hein? Il délaisse la vérité par la suite. Donc ça c'est pas ça le vrai succès. Le vrai succès c'est d'accepter la vérité et de s'y accrocher et de rester ferme sur cette vérité jusqu'à la mort. Hein? Non, exactement. Les Sahaba ils craignaient de s'égarer, ils avaient peur de ne pas rester sur le droit chemin. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit dans plusieurs hadiths. Il explique, il dit Innama al-a'malu bil khawatim. C'est-à-dire, les actions ne valent que selon. Non, pas l'intention. Oui, il y a un hadith qui dit l'intention, mais al-khawatim, ça veut dire les choses qui terminent. C'est-à-dire, comment tu vas terminer tes œuvres. C'est ça qui est important. Donc, si toute ta vie t'as fait le bien, mais qu'avant ta mort tu commences à faire de l'égarement, eh ben, tu meurs dans l'égarement. Donc, c'est pas de commencer bien qui est important, mais c'est de bien commencer et de bien terminer. Dans le hadith, il y a un hadith qui dit, comme tu dis là, il y a des gens que entre eux et le paradis, il restait juste une petite espace, une petite distance. Puis ce qui a été écrit par Allah a pris le dessus et là il commence à faire les œuvres des gens de l'enfer et puis il rentre en enfer. Et d'autres c'est le contraire, ils ont vécu leur vie à faire des actes des gens de l'enfer jusqu'à ce qu'il reste une petite espace entre eux et une petite distance entre eux et l'enfer. Et ils commencent à faire les œuvres des gens du paradis et puis ils rentrent au paradis. Donc c'est pour ça que le plus important c'est comment tu vas terminer, hein? Et donc de rester ferme, hein? D'être persistant et constant dans tes efforts, exact, d'être sincère et de rester sur le droit chemin. Et en général, si quelqu'un il est mukhlis, c'est-à-dire il est sincère envers Allah et son intention il est pure, en général Allah subhanahu wa ta'ala il ne l'abandonne pas, il ne le laisse pas s'égarer, il le garde sur sa religion jusqu'à la fin. Donc le cheikh il dit wa hadha as-sirat alladhi awjaba Allahu alayna an nas'alahu an yahdiyana iyyahu huwa siratul ladina an'ama Allahu alayhim min an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hum alladhina jama'u bayna al-'ilm an-nafi' wal-'amal as-salih. لأن الله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق فالهدى هو العلم النافع ودين الحق هو العمل الصالح وهؤلاء الذين أنعم الله عليهم هم على درجات أعلاهم درجة الأنبياء ثم يليهم الصديقون ثم الشهداء ثم الصالحون وسبب إنعام الله عليهم أنهم سلكوا هذا الصراط المستقيم وهذا الصراط المستقيم هو خلاف الطريق المغضوب عليهم وهم الذين أخذوا العلم وتركوا العمل واتبعوا أهواءهم وهم اليهود ومن شابههم. Donc le cheikh il dit ce droit chemin, ou ce chemin que Allah a ordonné de suivre et qui nous a ordonné de lui demander de toujours nous guider sur ce chemin-là, c'est le chemin de ceux sur qui Allah a mis sa grâce. Parmi les prophètes, les véridiques, les témoins ou les martyrs et les hommes pieux, les vertueux. Ce sont ceux qui ont réuni les deux caractéristiques les plus importantes, c'est-à-dire qu'ils ont la science bénéfique, donc la science authentique et bénéfique, et les bonnes œuvres avec. Donc c'est pas juste des gens qui ont de la science, mais qui ont, ils ont la pratique. Et c'est pas des gens qui ont que la pratique sans la science. C'est pas des gens qui ont la science sans la pratique, et c'est pas des gens qui ont la pratique sans la science. Ils ont la science et la pratique ensemble. Tandis que, donc le cheikh il dit ceux-là, hein, Allah, il dit que, yani, Allah a mis sa grâce sur eux. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé son messager avec la guidance, c'est-à-dire la science bénéfique, et la religion de vérité, c'est-à-dire les bonnes œuvres, les œuvres authentiques, les bonnes œuvres. Et le cheikh, il dit, ceux-là sont ceux sur qui Allah a mis sa grâce. Et parmi eux, il y a des degrés différents. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas tous au même niveau ou au même degré. Il y en a qui sont plus élevés en degré, et il y en a d'autres qui sont en dessous. Et il dit que ceux qui sont les plus élevés sont les prophètes. Puis ceux qui viennent ensuite parmi les véridiques, hein, siddiqoun. Puis ensuite ceux qui viennent ensuite, c'est-à-dire les martyrs. Puis ensuite les hommes vertueux qui viennent en dessous. Et il dit que la cause qui a fait en sorte qu'ils ont reçu la grâce d'Allah sur eux, c'est parce qu'ils ont suivi ce droit chemin-là. Donc parce qu'ils ont suivi ce droit chemin, Allah a mis sa grâce sur eux. Et donc il dit ensuite, et ce droit chemin, il est différent du chemin de ceux sur qui Allah a mis sa colère, ou le chemin de ceux contre qui Allah est en colère, c'est-à-dire ceux qui ont pris seulement la science, mais qui ont mis de côté la pratique religieuse, la pratique de cette science. Ceux-là, yani, parce qu'ils ont abandonné la science et l'application, c'est-à-dire ils ont pris la science, mais ils ont abandonné l'application et la pratique, et ils ont suivi leur passion, eh bien, à cause de ça, Allah est en colère contre eux. Et ce sont les juifs et ceux qui leur ressemblent, c'est-à-dire peu importe, il y a les al-Yahoud, ça c'est une de leurs caractéristiques, mais il y a d'autres aussi, autres que les juifs qui ont cette caractéristique-là, qui rentrent avec eux aussi et qui ont la colère d'Allah. Même s'ils se disent musulmans, s'ils ont de la science mais qu'ils ne l'appliquent pas, ils rentrent dans cette catégorie-là aussi, c'est-à-dire parmi ceux sur qui Allah a mis sa colère, ou ceux contre qui Allah est en colère, par rapport au fait que parmi eux sont ceux sur qui Allah a mis sa grâce. Hein? Ça c'est expliqué dans le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il explique dans Surat An-Nisa, il explique que ceux-là, bon, je l'ai dit dans l'écho précédent, au début du livre, le cheikh il expliquait. Non, et que eux ils sont en différents degrés. Ensuite, le cheikh il dit, وأما الضالون فهم الذين أخذوا العمل وتركوا العلم وهم النصارى ومن شابههم فإنهم فإنهم ترهبنوا وتزهدوا وأهملوا جانب العلم فساروا على غير بصيرة فضلوا وأضلوا ويشبههم في هذا كل أصحاب البدع والمحدثات والخرافات من هذه الأمة الذين يتقربون إلى الله بما لم يشرعه مقدمين في ذلك أهواءهم وأذواقهم على الأدلة والشرع والنقل. Donc le cheikh il dit, en ce qui concerne les égarés, ad-dalloun, c'est ceux qui ont pris la pratique religieuse mais qui ont laissé de côté la science. Et ce sont les chrétiens et ceux qui leur ont ressemblé. Donc eux, ils ont pris la voie du monachisme. Hein, ils sont rentrés dans les monastères, ils sont devenus des moines. Hein, et ils ont laissé de côté la vie d'ici-bas. Et ils se sont concentrés uniquement sur l'adoration et la pratique religieuse, mais ils ont délaissé ou mis de côté la science. Hein? Et parmi les éléments de la science qu'ils ont délaissé, le plus important dans la science, c'est le tawhid d'Allah. Donc, ils ont délaissé l'unicité d'Allah. Et c'est pour ça que tu trouves chez les chrétiens l'adoration d'images, l'adoration de statues, l'adoration de croix, hein, le fait de vénérer des croix, des statues, des images, des icônes, des croix, toutes sortes de représentations d'êtres humains, de saints, de tombes, hein, qu'ils adorent en dehors d'Allah. Allah musta'an. Même que dans les endroits où un homme pieux est mort, ils vont construire dessus une église ou un temple, hein, ou un mausolée. Puis maintenant, parmi les musulmans, il y en a qui les ont imités et qui font ça aussi. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent les os, les restes de cette personne sainte qui est mort, ils gardent les ossements et ils les mettent dans leur église pour que ces ossements-là soient une source de bénédiction pour eux, tu vois. Ils croient que c'est une source de miracle. Hein? Allah al-musta'an. Et la même chose aussi chez les soufis, parmi les soufis et les chiites aussi, qui se disent musulmans, qui font la même chose que ces chrétiens. Et même tu trouves ça aussi chez les juifs. Les juifs aussi, ils ont des saints, ils font des pèlerinages à leur tombe, ils adorent en dehors d'Allah, la même chose. Donc, parmi les musulmans, il y en a qui les ont imités là-dedans. Donc, le cheikh, il dit, ces gens-là, ils ont délaissé la science. Et ils sont devenus des gens qui adorent des idoles ou des choses en dehors d'Allah, ou qui font des pratiques qui ne sont pas légiférées, et donc ils font des adorations sans science. Et donc ils s'égarent eux-mêmes et ils égarent les autres avec eux. Et parmi les musulmans, il dit que tous ceux qui font des bid'ah et des innovations dans la religion, et qui inventent des choses, ou qui suivent des superstitions, eh bien ils font partie de ceux qui ressemblent à ces égarés-là parmi les chrétiens. Parmi les gens de cette umma, ceux qui se rapprochent d'Allah en faisant des adorations qui n'ont pas été légiférées par Allah et qui placent ou qui mettent en avant leurs désirs et leurs passions et leurs sensations au-devant des textes de la charia et au-devant des preuves. Donc ça, c'est de l'égarement. Et l'exemple par rapport à ça, c'est que les soufis, par exemple, quand ils vont pratiquer des actes ou faire des actes religieux, ils vont dire on a fait tel ou tel acte ou telle chose et on a eu des sensations bénéfiques. C'est-à-dire, ça nous a ramené une bonne sensation. Donc, ils utilisent ça comme preuve. Le fait que ça nous a fait sentir bien, ça veut dire que c'est bon. Et ils se basent là-dessus par la suite, puis ils le pratiquent comme acte religieux. Et ça, il n'y a pas de doute que c'est de l'égarement, ça. Puisque tu peux pas te baser sur ce genre de choses pour essayer de justifier qu'est-ce que tu fais de ce genre de choses. Non. Juste un point aussi, donc comme par rapport à qu'est-ce que je mentionnais, par rapport à qu'est-ce que font les chrétiens, il y a l'exemple des musulmans parmi les soufis que j'avais cité la dernière fois. Ils font des choses d'ignorance et d'égarement comme ça aussi. Et j'avais mentionné l'exemple de Hassan al-Banna. Puisque Hassan al-Banna, c'était un soufi de la tariqa al-Hisafiyya, hein, qui font ça, mais aussi, il y en a chez les soufis, il y en a chez les... C'est un ikhwan, oui, c'est le fondateur des ikhwan, mais c'était un soufi. Il a commencé dans les turuq soufiyya, et quand il a fondé son groupe, il l'a fondé selon les bases et les ressemblances des turuq soufiyya. Donc on voit comment ils font dans leur mosquée, quand ils font la hadra, hein? Donc là, c'est ça que je disais l'autre fois, comment ils font. Ça, c'est au début. Il y en a un qui tape des mains, puis là, les autres, ils se balancent comme ça, en avant, en arrière, sur le rythme. Hein? Puis, ça, c'est pour dire que par la suite, ils changent de rythme. Hein? Puis les autres, après, à la fin, ils changent aussi. Allahu a'lam. Qu'est-ce qu'ils pensent que... Ils pensent que ça, c'est quelque chose de du bien qu'ils font. Mais c'est, tout ça, c'est de l'égarement. Tu vois? Ils font « hou, hou, hou ». Tu vois? « Hou, 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 hou ». Ils pensent que ça, c'est de l'adoration. Et ils font ça dans des mosquées, tu vois? Et probablement, ça c'est des Shadili, la tariqa Shadiliya. Et Hassan al-Banna était dans la tariqa Shadiliya, lui aussi. Et son fils Tariq Ramadan est dans la tariqa Shadiliya. Ça c'est des choses pour eux, ça c'est normal, il n'y a pas de mal là-dedans. Hein? Et là tu vois par exemple en Afghanistan, quand tu entends ceux-là, qu'est-ce qu'ils font dans leur mosquée, on dirait même que c'est un genre de... Tu dirais qu'on dirait que c'est des gens qui sont en train de couper du bois. Et je me rappelle une fois quand je venais juste de me convertir à l'islam, ça faisait quelques mois, hein, j'étais parti acheter des livres dans une librairie qui était à Ville-Saint-Laurent à l'époque. Cette librairie n'existe plus aujourd'hui. Mais c'était un soufi qui était à la tête de cette... Non, c'était pas sur Descari. Je te parle d'une autre... c'était à Ville-Saint-Laurent. En arrière de la mosquée ICQ à l'époque. Et là, c'était un soufi qui avait la librairie, hein, c'était un Tunisien. Maintenant, il est dans le centre des soufis ici, la secte des Naqshbandiyya. Donc, il est toujours là-bas. Mais la librairie, elle n'est plus là. Donc, il écoutait une cassette avec ce genre de bruit là-dedans. Moi, quand je suis rentré, j'ai entendu ça. Quand ils ont vu que je suis rentré, ils ont arrêté. Il y avait un paravent, et eux, ils étaient derrière le paravent. Donc, je ne voyais pas qu'est-ce qu'ils faisaient. Mais j'entendais, donc, ce bruit-là. Il y a un gros monsieur avec un gros turban, comme un Afghan, là, qui est sorti, puis lui aussi était sorti après. Et c'est ça le bruit que j'entendais. Tu vas voir. Donc, c'est juste pour dire, des gens qui font des affaires comme ça, puis après, ils disent que, ou ils pensent que, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, c'est de l'adoration. Hein? Parce que, quand ils l'ont fait, ça leur a fait sentir bien, ils disent, bon, ça y est, ça veut dire, on va l'utiliser, maintenant on va le faire. Alors que c'est de l'égarement. Donc, on va continuer ici, où est-ce qu'on était rendu? Ok, c'est ça. Donc, je pense que, yani, on peut s'arrêter ici. Parce que là, le cheikh, il va citer un premier hadith. Mais le hadith qu'il a cité, c'est un hadith qui est assez long. Et donc, si on commence à le citer, je ne pense pas qu'on pourra l'expliquer au complet. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On a le choix. Soit on lit le hadith, puis on le traduit, puis on laisse l'explication pour le prochain cours, ou bien on s'arrête maintenant. Ok, d'accord. Donc, on s'arrête maintenant. Ok. Ok, parfait. Exactement. Barakallahu fik. Donc, on va s'arrêter maintenant. Puis, on va continuer, Inch'Allah, au prochain cours, Inch'Allah, avec le hadith et l'explication. C'est un hadith de Adi ibn Hatim. Et Adi ibn Hatim, c'était un sahabi qui était au début chrétien. Et qui s'est converti à l'islam lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a fait la da'wah. Hein? Lui et son frère, ils ont accepté l'islam. Donc on s'arrête ici. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.